Les matins de France Culture.
La revue de presse internationale, bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Guillaume.
Ce matin, cherchez l'erreur.
Les regains de tension, escalade, mais aussi guerre froide, deux et parfois même troisième guerre mondiale. Depuis quelque temps, les expressions ne manquent pas pour décrire une situation internationale explosive et de fait, les horreurs de la guerre syrienne ont tout pour dégénérer en une crise planétaire, ainsi que l'écrit encore The Guardian. À bien des égards, nous serions en train de revivre, autre expression, là encore, les heures les plus sombres de notre histoire. Alors jusqu'à quel point devons-nous nous inquiéter? Pour le savoir, le magazine en ligne américain Slate s'est posé tout simplement la question: comment détecter qu'une guerre va bientôt être déclarée? Et en l'occurrence, comment savoir si Trump envisage sérieusement de déclencher une guerre? Voici donc les principaux arguments que le magazine a repérés lorsque les faucons cherchent à justifier une guerre. Tout d'abord, la menace est généralement sérieuse et, pis encore, elle s'intensifie. La logique de base est celle-ci, le conflit étant inévitable, il vaut mieux se battre maintenant que plus tard. Dès lors, soyez à l'affût de termes comme ligne rouge, point de non-retour ou bien encore le compte à rebours a commencé. Ensuite, pour convaincre l'opinion publique de la nécessité de lancer le dé de fer de la guerre, celle-ci est souvent vendue comme facile et peu coûteuse. Quels sont les indices à guetter dans ce cas? Plus il est question de frappe punitive ou de conduire des attaques chirurgicales, plus il est légitime de se faire du souci. Enfin, ultime argument, l'ennemi est diabolique ou fou, voire les deux. Un conflit présenté comme un simple choc d'intérêt contraire ne suffit pas, car si c'était le cas, le problème pourrait se résoudre grâce à la diplomatie. Donc les faucons se donnent beaucoup de mal pour dépeindre les adversaires comme des incarnations du mal et convaincre l'opinion publique que l'ennemi est moralement répugnant. Bref, si vous entendez certains de ces arguments, méfiance. Sauf que ce qui peut compliquer la tâche, c'est qu'une nation qui ne veut pas faire la guerre peut aussi se conduire comme si elle avait l'intention de la faire, dans l'espoir de convaincre son adversaire de faire des concessions. Cette tactique a d'ailleurs plutôt bien fonctionné a priori s'agissant de la Corée du Nord. Reste qu'elle comporte un risque, le fait de se mettre à croire à sa propre propagande et ainsi se convaincre soi-même d'entrer petit à petit dans la guerre.
Quoi qu'il en soit, Thomas, pour l'instant, aucun missile n'a encore été tiré.
Non, même si on pouvait craindre que l'heure de l'apocalypse avait sonné, écrit la Nezavisi Maya Gazieta, Washington ne s'est pas décidé à déclencher la troisième guerre mondiale. Le ton a d'ailleurs visiblement changé. Hier, l'ambassadeur russe auprès de l'ONU a estimé que la priorité est d'éviter le danger d'une guerre entre la Russie et les États-Unis. Le Kremlin a lui-même fait savoir que les règles de déconfliction continuaient de s'appliquer avec les États-Unis. En clair, en cas de frappe, Moscou devrait agir comme il y a un an, à l'époque lorsque les États-Unis avaient envoyé une soixantaine de missiles en représailles à une autre attaque chimique de l'armée de Bachar el-Assad. La Russie n'avait pas branché. Des fuites apparues fort opportunément dans le journal Commerçant vont même plus loin en donnant carrément les dates des fenêtres de tir possibles pour laisser passer sans encombre une possible opération américaine entre le 17 et le 19 avril. Quant au secrétaire américain à la Défense, il a lui aussi appelé hier à la prudence, note The New York Times, ou plus exactement le Pentagone attend d'obtenir davantage de preuves quant au rôle du président Bachar el-Assad dans l'attaque chimique présumée perpétrée samedi dernier. Et ce, afin de convaincre in fine le monde entier qu'une une action militaire est nécessaire. En clair, si aucune frappe n'a été menée pour le moment, cela ne signifie pas qu'il n'y en aura pas dans un proche avenir. Toujours dans les colonnes du journal de New York, deux responsables du Pentagone prédisent d'ailleurs qu'il sera difficile d'éviter ces frappes étant donné que Donald Trump a lui-même promis des représailles. Or, s'il décidait maintenant de ne rien faire, il serait aussitôt comparé à son prédécesseur Barack Obama, ce qui pour lui constituerait la pire des insultes. Et d'ailleurs, citant une source anonyme, la chaîne américaine CNBC a elle rapporté hier que les États-Unis avaient d'ores et déjà sélectionné 8 cibles possibles en Syrie, y compris 2 aérodromes, une installation de recherche et une installation d'armes chimiques.
Et c'est ainsi que les titres les plus alarmistes se retrouvent encore ce matin en première page des journaux, Thomas.
Oui, quand Der Tagesspiegel, mais aussi The Australian, nous annonce à nouveau le grand retour de la guerre froide, The Daily Mail titre, lui, « Les missiles sont prêts à partir ». De son côté, The Times croit savoir que des attaques dirigées par les États-Unis sont attendues dans les 3 prochains jours, avant de préciser que la plus grande force américaine de frappe aérienne et navale se dirigeait hier soir vers la Syrie. D'où cet édito à lire cette fois-ci ce matin dans les colonnes du Temps, Irak, Syrie ou quand l'histoire bégaye. Tout comme la détention hypothétique d'armes de destruction massive par Saddam Hussein avait conduit le président américain George Bush à envahir l'Irak, le largage présumé de gaz létaux sur la Ghouta orientale permet aujourd'hui à Donald Trump d'annoncer des représailles musclées. De nouveau, une coalition du bien se forme contre l'axe du mal, incarné ici par la Russie, et la chroniqueuse de s'interroger On peut s'étonner, dit-elle, que Donald Trump, dont l'imprévisibilité, la dangerosité et le ridicule sont unanimement et constamment dénoncés, retrouve tout son lustre dès lors qu'il propose de pilonner la Russie ou ce qu'il en reste. Et de la même manière, on s'étonnera que Theresa May, dont la faiblesse stratégique et tactique est largement déplorée, n'hésite pas à entraîner la Grande-Bretagne empêtrée dans son Brexit pour jouer les vats en guerre avec le grand frère américain, ou bien encore que la France, autrefois mieux inspirée, se joigne au concert des bonnes intentions alors que ses trains sont en grève, ses universités mal en point et ses réformes mal acceptées. Tandis que tous ces chefs d'État sont souvent piètrement jugés quant à leur prédisposition visionnaire ou leur efficacité à gouverner, ils sont à contrario considérés comme crédibles dans leurs décisions internationales, alors même que leur intervention pourrait conduire à un conflit mondial ou pour le moins à un nouveau bain de sang au Moyen-Orient. Cherchez l'erreur.
Merci beaucoup Thomas Cluzel.